Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le chômage serait-il le grand vainqueur de l'élection présidentielle en Tunisie avec 45% de participation? C'est une vraie désaffection pour ce premier tour. Alors est-ce que le marasme économique est en cause, Xavier?
En tout cas, désaffection nette, oui, par rapport à 2014. Et corrélation intéressante, dans un pays où le chômage des jeunes atteint 35%, ces jeunes, notablement absents des bureaux de vote hier. Alors peut-être est-ce justement ce chômage qui profite à la désaffection politique et qui vient d'éjecter les partis traditionnels au profit de deux anti-systèmes, eux-mêmes avec un programme économique assez mince. Sinon, je cite, libérer l'économie ou bien lutte contre la pauvreté, priorité absolue. Ça, c'était pour Nabil Karoui, un des deux candidats arrivés en tête. Un des candidats de l'élection, celui d'Ennahda, parti islamo-conservateur, proposait de favoriser, lui, l'investissement des jeunes. Mais les constantes qui ont conduit à 2011 demeurent en Tunisie, notamment une dette publique à presque 80% du PIB, une balance commerciale toujours déficitaire, près de 13 milliards de dollars les 8 premiers mois. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Jean-Yves Moisseron, directeur de recherche à l'IRD, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek.
Moi, je suis assez pessimiste, en tout cas, quand je vois le fait qu'il y a une qualité de débat parmi les économistes en Tunisie qui, pour certains, prennent vraiment les problèmes à bras-le-corps et dressent des perspectives, font un bon diagnostic de la situation. Et ce qui en sort en termes de débat politique, où on a plutôt des réformettes qui hésitent entre des modèles, mais qui ne prennent jamais en compte le régime de croissance et finalement l'intérêt des élites qui est préservé dans un dispositif, et ce, au détriment de la grande partie de la population. Donc on ne touche pas le cœur, l'essentiel des défis économiques que doit relever la Tunisie pour sortir durablement d'une situation où les jeunes sont exclus du marché du travail, où il n'y a pas de prime à la qualification, où les modes d'insertion de la Tunisie dans l'économie mondiale restent fondés sur une spécialisation à bas coût et à mauvaise qualité. Donc c'est tout ça qu'il faudrait remettre à plat, mais ça suppose une redistribution du pouvoir et des richesses de l'élite qui finalement tient toujours le pays.
Et le principal bailleur de la Tunisie, le FMI, s'inquiétait également pour la fin de cette année.
Oui, le FMI qui a prêté 2,4 milliards d'euros à la Tunisie et qui révisait ses perspectives de croissance en juillet à, je cite, 2% tout au plus, déçu du bilan manufacturier. Quant à réformer le système, comme le disait Jean-Yves Moisseron, eh bien 70 économistes tunisiens indépendants s'étaient mobilisés fin août pendant la campagne en publiant un livre bleu. Ils préconisaient trois mesures principales, stabilisation économique, relance par les investissements et des politiques sectorielles.
On passe aux brèves. Grève historique aux États-Unis chez General Motors.
Et oui, 46 000 employés de chez General Motors sont appelés à débrayer dans 3 heures maintenant, à midi heure américaine, pour cette première grève la plus massive depuis 2007. Alors ce mouvement lancé par le puissant syndicat United Auto Workers vise à appuyer la renégociation d'une convention collective de 2015. Les syndicats demandent des salaires et des droits à la santé supplémentaires. General Motors dit avoir présenté ce qu'il appelle une offre solide, à voir qui cédera, puisque vendredi, le syndicat avait conclu des accords avec Chrysler et Ford, mais le groupe GM doit économiser cette année plus d'un milliard de dollars.
Toujours aux États-Unis, suite de la crise judiciaire des opioïdes, Purdue Pharma, un des plus puissants industriels, rend les armes.
Et oui, le fabricant de l'analgésique OxyContin vient d'annoncer sa mise en faillite et le retrait de ses propriétaires, la famille Sackler. C'est le résultat d'un accord entre un des principaux fabricants d'opioïdes visé par plus de 2000 plaintes et 24 États américains pour éviter un procès, justement. Purdue Pharma donc disparaît. 10 milliards de dollars devraient être dégagés, dont une partie réinjectée au profit d'une nouvelle entité qui distribuera à moindre coût des traitements contre les opiacés. Ainsi, comme Johnson & Johnson, Purdue était accusé d'avoir favorisé des prescriptions de ces antidouleurs, contribué à 47 000 décès. Johnson & Johnson s'en était tiré avec une amende. Fin de partie pour Purdue Pharma, à voir la suite chez les concurrents.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.